scoop, tous les gens qui auront 85 ans en 2030 sont déjà nés aujourd'hui. Et les chiffres que vous donnez là montrent qu'il n'y a pas les vieux. Ce n'est pas une catégorie homogène. C'est 20, 30, 40 ans d'une vie où on peut potentiellement être qualifié de personne âgée. Et donc le chiffre que vous avez montré là, c'est une étude qu'on a fait avec notre think tank Mathias Gilles, le commissariat au plan, qui a montré que la décennie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une explosion des 75-84 ans. Mmh.
C'est les baby-boomers, quoi.
Absolument.
C'est ça, hein, ceux qui sont nés
après la guerre. Boomers qui sont nés en 1945, ouais, qui ont donc 75 ans ouais. en 2020. Ouais. Ils auront donc 85 ans en 2030. Ouais. Et donc l'explosion des 75-84 ans, là, en ce moment, va se transformer en explosion des 85 ans et plus à partir de 2030. Ouais. C'est deux défis très différents. Hein. Le premier consiste à adapter la société au vieillissement, les logements, les mobilités. Évidemment, le deuxième défi consiste à prendre en charge la perte d'autonomie potentielle.
Oui. Véronique Fournier, vous faites...
Non, mais c'est vrai que je pense que la société ne s'est pas suffisamment adaptée au vieillissement. Et ce que je pense aussi, c'est que l'allongement de la longévité, même de 75-85 ans, ne veut pas dire inactivité. Hein. On a trop tendance à considérer aujourd'hui qu'à partir de l'âge de la retraite, on est inactif. Ce n'est pas vrai. Et on peut, en tout cas, mettre vraiment... faire contribuer les personnes âgées, elles peuvent rester actives très longtemps. Et deuxièmement, on peut aussi repousser la dépendance. Tout le monde ne sera pas dépendant. Il n'y aura qu'une toute petite partie des personnes très âgées qui seront dépendantes. Mmh. Et plus on inclura longtemps les gens dans la société, moins il y aura de dépendants. Et plus on pourra repousser l'âge de la grande dépendance.
Et effectivement, cette vague des baby-boomers, donc qui sont nés après la guerre, 23-25 millions de personnes, qui sont, arrivent massivement à la retraite, et qui commencent, comme l'a rappelé Luc Broussy, à arriver à l'âge de 75 ans, qu'on estime, de manière un peu arbitraire, l'âge de la dépendance. C'est que l'avant-garde, parce que effectivement, cette vague-là, si vous voulez, la pyramide des âges, elle n'est plus du tout pyramidale. Elle l'était dans les années 50-60, et aujourd'hui, en fait, la pyramide des âges se rétrécit par le bas, donc les écoles se vident petit à petit et les EHPAD se remplissent petit à petit. Et c'est cet effet-là qui, je pense, on n'a pas conscience de ce que ça veut dire en termes sociétaux, en termes économiques, en termes financiers, en termes politiques aussi. Il y a une forme de déni démographique en France, on l'a vu lors de la réforme des retraites, qui fait qu'on ne prend pas en compte ce grand changement démographique français. Et je pense qu'il faut se réveiller, c'est ce qu'essaie de faire l'Assemblée, mais on a du mal politiquement à suivre cette vague-là.
C'est exactement l'inverse. Ma prime adapte, je ne veux pas m'en attribuer totalement la paternité, mais enfin c'est dans le rapport que j'ai fait en 2021 et que, pour le coup, Emmanuel Macron a repris, avec vous avez raison, date des faits au 1er janvier prochain. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout de dire les Français veulent rester à domicile. Il faut leur en donner les moyens. 10 000 personnes âgées meurent chaque année de chute domestique. On ne peut pas continuer avec ce déni de santé publique. Donc il faut adapter son logement. Il est possible qu'à un moment donné, le logement ne soit pas adaptable. Vous pouvez adapter tous les logements du monde. S'ils sont à 5 km de la boulangerie, ce n'est pas un logement adapté. Mmh. Donc il y a aujourd'hui la nécessité. Vous savez, en moyenne, les personnes âgées adaptent leur logement à l'âge de 84 ans. C'est beaucoup trop tard.
C'est beaucoup trop tard.
C'est beaucoup trop tard. Il faut anticiper. Et puis à un moment donné, il faut que tout le monde se pose la question. J'espère que ma prime adapte y participera. C'est de dire, bon... mon pavillon à 5 km de la boulangerie, ce n'est pas adapté, peut-être y compris à la vie de ma femme quand moi je décéderai. Parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que l'immense majorité sont des femmes au-delà de 80-85 ans. Donc adapter son logement ou bien trouver d'autres formes de domicile. Rester chez soi, ça peut signifier parfois changer de chez soi. Et c'est là où les nouvelles formules se développent aujourd'hui, tout à fait passionnantes.
Poser la question aux gens, les premiers concernés. Pas que ce soit des gens de l'extérieur, tout jeunes, qui décident de comment les vieux doivent vieillir et où ils doivent habiter. Voilà. Et donc, nous en avons reçu 2000 ce week-end.
Au contre-salon.
Au contre-salon. Parce que pour la première fois, on leur disait, venez nous dire ce que vous voulez.
Et qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils disent que c'est pas tout à fait ce que Luc Broussy leur propose qu'ils veulent. Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils veulent?
Et donc, ils veulent décider pour eux-mêmes au moment où ils le voudront. Et c'est vrai, on peut penser tout ce qu'on veut. On peut dire, il faudrait anticiper. Mais les gens ne veulent pas anticiper. Vous allez les forcer à anticiper. Vous allez faire comment? Ils ne veulent pas. Pour l'instant, ils sont chez eux. Ils se sont bagarrés pendant 70 ans pour tenir sur leur quille tout seul, pour résister à l'existence, qui n'est pas facile, qui est pleine d'épreuves.
C'est votre cas.
Par exemple, oui. Et voilà, ils disent, j'ai appris à vivre tout seul et à rester autonome. Laissez-moi progresser comme je veux dans cette pensée-là. Et au moment où il le faudra, et où j'en aurai besoin et où j'aurai pas le choix, je verrai.
Et pour tout ça, les retraites, la santé, une population qui vieillit, c'est une population qui a besoin d'argent parce qu'il y a des besoins croissants et il faut répondre à ces besoins, il faut les accompagner. Il y a trois manières de faire payer ça. Soit c'est les actifs, ce qui est un peu la solution facile, moi je dirais un peu lâche, c'est-à-dire on dit les générations qui travaillent aujourd'hui vont se récupérer la facture du vieillissement, voilà, et puis...
C'est le système de répartition,
mais le problème c'est qu'on a de moins en moins d'actifs pour payer de plus en plus d'inactifs. Et c'est le même problème que pour les retraites, c'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment vous asphyxiez tellement les actifs que vous leur mettez des taux de cotisation tellement énormes que le travail ne paye plus, qu'ils se retrouvent dans des situations assez compliquées.
Par exemple, au Japon on peut travailler jusqu'à 80 ans et justement c'est les actifs qui financent...
Et vous savez qu'aujourd'hui les actifs, un tiers du salaire brut, il va déjà dans les cotisations retraite. Aucune autre génération n'a connu ça par le passé. Donc il faut faire attention de ne pas mettre sur les épaules des actifs trop de charges.
Alors comment faire ? Quelle alternative ?
Il y a une autre solution, c'est la solution assurantielle. De dire, à partir de 50 ans, vous obligez les gens à prendre une assurance et donc à individualiser le risque de longévité pour qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes contre ça. Et il y a une autre solution aussi, c'est de mobiliser le patrimoine des seniors. C'est eux, je vous rappelle quand même que les plus de 60 ans sont maintenant plus riches que les moins de 60 ans et qui sont plus riches alors que ce sont ceux qui bénéficient du système de protection sociale. On peut trouver des solutions, la location transmission, le viager. Il y a des solutions intelligentes qui permettent de liquéfier le patrimoine des seniors pour leur permettre justement de financer leurs nouveaux besoins.
Il faut un système de solidarité nationale, mais il ne pourra pas peser que sur les seuls actifs. Il a raison de dire que quand vous prenez le taux de pauvreté en France... Le plus faible taux de pauvreté, c'est après 65 ans. Il faut arrêter d'être dans l'idée que vieux égale pauvre. C'était le cas il y a 40 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. La solution, enfin, il y a des petites retraites fortes.
Vous savez, il y a aussi des personnes âgées qui sont battues pour l'augmentation.
Comme il y a des petits salaires, je veux dire. Bon, mais c'est vrai que le patrimoine immobilier ou mobilier est concentré dans ce pays au-delà de 60, ce qui est tout à fait légitime. Bon, non, moi je crois que à la fois ça va coûter. Il faut un système de solidarité. Un, il faut faire en sorte à partir de maintenant, puisqu'on peut anticiper, que ça coûte le moins possible demain. Politique de prévention. Trois, ça peut aussi, non pas rapporter, mais ça peut aussi créer des emplois, créer de la croissance. C'est ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une activité autour du bien vieillir qui va se développer et qui va aussi générer de la croissance. C'est pas seulement un secteur qui coûte.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est qu'il faut que ça soit la solidarité nationale qui paye. Parce que justement, il y a des grandes inégalités quand même parmi les vieux, même si effectivement, les vieux ne sont pas la génération la plus à
plaindre. Un impôt particulier ?
Mais ce que nous pensons aussi, c'est que oui, peut-être qu'il faut savoir discuter et que les vieux payent plus quelque chose, puisque finalement, les riches qui deviennent vieux ont plus de chances de devenir très vieux que les pauvres qui deviennent vieux. Et ceci, tout le monde le sait. Et donc, une fois de plus, je pense que laissons les vieilles et les vieux penser ça et faire des propositions à la société. Ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe entre les générations et ils ont envie de proposer leur quote-part. Et donc, je pense qu'ils seront plus faciles à convaincre s'ils discutent et s'ils sont pris à témoin et si on les engage dans la discussion plutôt que si on leur impose quelque chose de l'extérieur.
Et ben juste
la raison simple, c'est que il y a des conseils des enfants parce que ce ne sont pas des citoyens. Les personnes âgées sont des citoyens. Moi, j'ai été élu local, j'ai été élu municipal, maire adjoint. Dans notre équipe, il y avait tout âge. Donc moi, je veux l'inclusion de tous les seniors, les personnes âgées, dans les clubs sportifs, dans les associations, dans les conseils municipaux, et pas ghettoiser la citoyenneté des personnes âgées comme s'ils avaient des soucis autres que l'ensemble des autres citoyens. Moi, le jour où j'aurai 80 ans, j'ai pas envie d'être dans un conseil d'anciens.
Nous avons l'intention de continuer de nous organiser en conseil spécial des vieux impertinents et anciens boomers pour continuer de provoquer un peu les débats qui nous intéressent et auxquels nous voulons participer. Nous ne voulons pas être un vieux alibi dans un conseil général ou dans une municipalité. Nous voulons compter plus que cela dans la construction de la société de demain.
Est-ce que si c'est en nationalisant qu'on va solutionner le problème ? Enfin, c'est pas une solution miracle.
Vous auriez la main sur les salaires.
Oui, mais le problème, c'est pas que les salaires, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de personnel. C'est-à-dire même dans certains secteurs comme ça. D'ailleurs, c'est pas que sur les aidants. On le voit dans beaucoup de pénuries, dans beaucoup de filières en France aujourd'hui. Ça aussi, c'est démographique. C'est le fait qu'on ait une population active qui, je le rappelle, va commencer à baisser dans les années 2030, 2036. Parce que justement, on a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour financer, mais aussi pour travailler dans l'économie. Donc c'est pas en nationalisant qu'on va régler le problème.
Les professionnels des EHPAD, ils n'estiment pas que ce qui a été montré là est spécifique à Orpea. 50% des EHPAD sont publics en France aujourd'hui. Mmh. Donc si c'était les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, ça serait. Donc c'est vraiment pas la nature juridique qui est comment dire, au cœur de la qualité de prestation d'un établissement. Ça vraiment, je veux dire, sur le terrain, tout le monde le constate. Mais en revanche, tant que dans notre société il sera plus valorisant d'être instagrammeuse à Dubaï qu'être soignante à Mont-de-Marsan, eh bien, vous aurez ce déficit de personnel.
Donc, vous voulez
évoquer. Qu'est-ce qu'on a fait au jour ? On a délégué à des trucs qu'on appelle les EHPAD l'accompagnement de nos parents et de nos grands-parents. On est un des pays qui institutionnalise le plus les personnes âgées en établissement. 21% contre beaucoup moins dans d'autres pays européens. Donc, et une fois qu'on a délégué cette tâche, on a de montre que de critiquer ceux qui font ce travail-là. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut voir à l'avis, Vincent Tellier, que vous avez interrogé, il le sait, les aides-soignantes qui vivent en banlieue, qui prennent le train, qui ont le trajet, et qui à la fin sont payées au SMIC dans des contrats précaires, c'est à ces gens-là.
Hein, je crois que c'est assez massif. Et de la même façon, je crois que les soignants aujourd'hui n'ont pas envie de travailler en EHPAD. Et de les mettre en périphérie de ville. On peut essayer de concevoir une façon de prendre en charge les personnes âgées différente.
Intergénérationnelle, avec un mélange entre les jeunes et les plus âgés.
Il y a plein de solutions et plein de solutions qui sont à l'étude. Moi, je pense qu'il faut nationaliser effectivement l'organisation du système complètement et que l'argent aille à tout le monde de façon équivalente en fonction du niveau de ses besoins et qu'ensuite de ça, il décide si c'est plutôt à domicile ou plutôt dans une structure légère ou plutôt dans une structure plus lourde. Ça coûte le même prix dans toutes ces structures. Il ne faut pas que l'argent aille à la structure, il faut qu'elle suive la personne et ses besoins.
Il faut changer l'EHPAD.
Il faut des milliards pour les rénover tout de même.
Il faut des milliards pour les rénover en termes
de murs. Et pour mieux payer.
Mais il faut les repenser. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un EHPAD, vous avez l'impression d'entrer chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est bienvenue chez nous. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit bienvenu chez vous. Vous voyez, que la logique institutionnelle change. Que les familles, que les résidents soient beaucoup plus impliqués dans la gestion de l'établissement. Il faut changer l'EHPAD, mais l'EHPAD, lui, sera toujours, qu'il s'appelle comme ça ou autrement, indispensable.